commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire qui va porter évidemment sur ce qui se passe un peu partout, notamment au Proche-Orient, donc une sorte de tour d'horizon un petit peu de toutes les questions géostratégiques, diplomatiques. Et nous avons pour nous éclairer aujourd'hui Michel Duclos. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Marie.
Michel Duclos qui est ancien ambassadeur et qui est le conseiller spécial géopolitique de l'Institut Montaigne. Alors, l'événement de la semaine, me semble-t-il, nous éloigne et en même temps nous rapproche des théâtres d'opération, que ce soit le Proche-Orient ou l'Ukraine, à travers la rencontre entre le président américain et le président chinois. Parce que il me semblait d'ailleurs que c'est en soi important, parce que ça n'avait pas eu lieu depuis un certain temps, parce que il me semblait que l'un et l'autre, au fond, avaient besoin de calmer ou de calme dans une situation de plus en plus tendue et dangereuse. Calme pour la Chine, parce que sur le plan économique, elle a de vraies difficultés, qui sont plus importantes que ce qui était attendu d'ailleurs, et donc elle a au fond besoin de rétablir un courant d'échange normal avec les États-Unis. Et calme pour les États-Unis, parce qu'ils sont déjà engagés sur au Proche-Orient, aux côtés d'Israël, ils sont engagés aux côtés de l'Ukraine face à la Russie, et on ne peut pas non plus multiplier les fronts, et notamment la perspective d'un conflit ouvert avec la Chine à cause de Taïwan serait évidemment très difficile en ce moment. Donc les États-Unis aussi ont besoin de rétablir un courant à peu près normal avec la Chine. On va donc peut-être commencer par cela, Michel Duclos. Est-ce que ces 4 ou 5 heures d'entretien qu'ont eu les deux présidents, chinois et américains, ont permis d'obtenir justement, pas cette tranquillisation, mais au moins cette accalmie sur ce qui est, pour les États-Unis, le front principal, en fait, c'est-à-dire la rivalité avec la Chine, Michel Duclos?
Alors, je vais peut-être vous contredire un tout petit peu, vous nuancez, Jean-Marie, parce que il faut bien voir que les Américains avaient souhaité ce qu'ils appellent la stabilisation de leur relation avec la Chine avant la crise actuelle au Proche-Orient, et même d'une certaine façon avant l'Ukraine. Ce qui avait empêché cela, vous savez, c'était l'incident du ballon chinois qui a, pendant plusieurs mois, stoppé le rapprochement. Et même après cela, les Américains ont fait différents efforts. Ils ont envoyé des ministres à Pékin. Il y a eu des rencontres entre le secrétaire d'État Blinken et son homologue chinois, notamment à Vienne. Et donc, les Américains, bien que campant sur ce consensus interne américain de forte hostilité à la Chine ou de volonté de résister à la Chine, l'administration Biden avait cette idée que c'était quand même bon d'encadrer la compétition. Et d'une certaine façon, en faisant sans doute la transposition avec ce qui s'était passé avec la guerre froide. Oui, c'est un adversaire, mais il faut que la rivalité se déroule dans certaines limites. Et c'est, je crois, ce qui est en train de se passer. Probablement, comme vous l'avez dit, qu'il y a un intérêt partagé, commun, des deux côtés. Pour être honnête, je vois plus l'intérêt américain que l'intérêt chinois. Chinois se sont fait prier, mais le fait est qu'ils ont finalement accepté cette rencontre qui, pour nous, Européens, n'est pas négligeable. Sur certains points, il est mieux que les Chinois et les, il est préférable que les Chinois et les Américains se parlent, notamment sur le terrain militaire. Ils ont rétabli là des contacts. Et là, ça peut être utile, évidemment, pour éviter les mauvaises interprétations en cas de crise. Et puis, d'un point de vue européen, il y a un autre élément important qui est l'espèce d'accord qui s'est produit sur certaines avancées, pas fantastiques, mais quand même certaines avancées en matière de transition écologique. Et là, ça vient quelques semaines, très peu de semaines avant la rencontre de Doha dans le cadre de la COPS. Et il faut se souvenir que les accords de Paris, la COP21, avaient été possibles grâce à une entente entre les États-Unis et la Chine qui avait bien mené, je dois dire, le président Obama.
Jean-Claude.
Oui, c'est une rencontre qui grandit les protagonistes et réduit, redimensionne, comme disent les Italiens, redimensionne les absents. Et particulièrement Poutine, si vous voulez, parce que ça fait un dialogue au sommet entre la Chine et les États-Unis et Poutine est en deuxième division. Mais il y a, je trouve, dans l'attitude chinoise, difficile à interpréter, bien sûr, pour moi en tout cas, il y a quand même une espèce de d'adoucissement. Il n'y a plus les miaulements ou les aboiements, comme on voudra, des diplomates chinois agressifs, ça a disparu. Manifestement, ils veulent continuer à envoyer des étudiants aux États-Unis. Ils sont embêtés, ils sont ennuyés d'une perte de contact scientifique. La science a une très grande importance pour eux, et dans la politique américaine, il y a quand même une espèce de politique d'isolement à l'égard des progrès techniques, si vous voulez, des chips pour les ordinateurs, etc. Et au fond, les Chinois veulent rester une grande puissance commerciale mondiale, et une grande puissance commerciale mondiale nécessairement en relation plutôt pacifique. Donc, je ne sais pas s'il faut interpréter cette rencontre comme une évolution, mais on peut essayer de se poser la question.
Michel Duclos.
Oui, je pense que l'analyse de Jean-Claude est très bonne. Je dois dire, je suis moi-même pas du tout un spécialiste de la Chine, mais vous savez, grâce maintenant au Zoom, on fréquente le monde entier, et depuis quelques années, quand on s'occupe d'affaires internationales, on est amené de plus en plus à parler avec des Chinois. C'est évidemment devenu essentiel. Et à chaque fois, je suis quand même frappé chez nos interlocuteurs par le degré d'anti-américanisme, qui est quand même presque dans les tripes, quoi. C'est très fondamental. Et alors, parfois, d'ailleurs, c'est assez pathétique, parce que quand on est dans des groupes où il y a des Américains, ça se passe très bien. Les Chinois sont évidemment très civilisés, mais après, dans les couloirs, quand on les voit en tête-à-tête, ils dénoncent l'impérialisme américain, etc. Une autre observation, c'est tout à fait anecdotique sans doute, mais parfois ça a un intérêt, c'est que manifestement, comme partout, il y a des courants, il y a des divisions, et il y a quand même tout le courant en charge de l'économie, le clan de Shanghai, comme ils disent dans leur propre jargon, qui dit halte-là, quoi, pas trop de confrontation. Et c'est clair que le président Xi doit, comme tout le monde, arbitrer entre différents courants et différents impératifs.
Oui, d'autant que, encore une fois, la Chine en a besoin sur le plan économique, parce que la chute est quand même sévère pour un régime qui a besoin d'un niveau de croissance suffisant, justement, pour continuer à maîtriser une population qui attend en échange, au fond, de sa docilité, si j'ose dire, des progrès matériels sensibles, comme c'est le levier principal de ce régime depuis le départ. Vous évoquiez l'anti-américanisme des Chinois, Michel Duclos, mais il y a un anti-américanisme plus élevé encore, c'est celui de Vladimir Poutine. Nous en parlions la semaine dernière avec François Stomm, mais dans un récent discours de Vladimir Poutine, il y a l'idée que l'ordre qui a été issu de la Seconde Guerre mondiale doit être détruit. Ce sont ses propres paroles. Ça n'est pas nécessairement ce que cherche la Chine, même si dans les déclarations officielles communes, il semble se rejoindre sur cet objectif et sur ce qui devient au fond une idéologie dont Vladimir Poutine assure qu'elle va rassembler, comme on dit, le Sud global. Est-ce que c'est bien cela qu'il faut avoir en tête, j'imagine,
Michel Duclos ? En tous les cas, bon, à un niveau très métastratégique, si vous voulez, c'est la question fondamentale. Est-ce que la Chine est révisionniste ou est-ce qu'elle est destructrice? C'est-à-dire, révisionniste, elle veut un peu plus de place, elle veut être l'alter ego des États-Unis, co-diriger le monde, ou est-ce qu'elle veut être destructrice? C'est-à-dire, est-ce qu'elle croit que, comme Mao, à travers les campagnes, on peut détruire les villes, et donc à travers le sud global, on peut ébranler les Américains et au-delà d'eux l'Occident. Et peut-être que la question n'est pas tranchée, peut-être que ça dépend justement des stratégies mises en place par les Américains et leurs alliés.
Mais Jean-Claude Casanova. Poutine a l'air d'aimer les envolées historiques, mais s'il tient à faire des envolées historiques et qu'il compare la situation de la Russie en 1945 et la situation de la Chine en 1945, eh bien, la Chine a bien plus progressé que n'a progressé la Russie, qui a historiquement régressé. D'une certaine façon, l'œuvre du Parti communiste chinois est désormais historiquement beaucoup plus importante qu'a été l'œuvre du Parti communiste soviétique.
Mais je crois que si on reste à ce niveau métastratégique, encore une fois, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens, mais malgré tout, ça aide à placer les choses en perspective. Poutine est peut-être contraint dans le moment actuel de favoriser le chaos et l'affrontement avec l'Occident, qu'il voit comme une porte de sortie pour son propre régime à l'intérieur et pour faire exister son pays à l'extérieur. Et même, j'ai peur que plus il dépendra de la Chine, plus il aura besoin de dominer l'Europe pour essayer de faire contrepoids. Et si jamais il y a un point de fuite lointain, positif, enfin une volée positive à son dessein, ce dont je ne suis pas sûr, ce serait de reconstituer une sorte de comité directeur du monde où il y aurait la Chine, la Russie et les États-Unis, et peut-être l'Inde, parce qu'il a l'air de considérer que l'Inde est aussi une superpuissance. Et ce serait une façon pour lui, ce directoire, de redonner une place à la Russie, qui soit pas seulement une place destructrice, mais encore une fois, c'est peut-être le point de fuite ultime.
Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, si vous voulez, Kiev est la ville slave éprise de liberté, et Moscou est la ville, d'une certaine façon, soumise à la Horde d'or. Et donc,
complètement.
Le recul historique doit être inquiétant pour l'entourage de Poutine.
Alors, on va revenir vers Joe Biden, le président américain, qui, lui, a des difficultés sur le plan intérieur, avec la montée d'une critique de plus en plus forte dans certains secteurs de l'opinion américaine contre Israël et contre le fait que Joe Biden, d'entrée de jeu, a annoncé qu'il soutenait Israël, bien sûr. Le spectacle donné à Gaza par les opérations militaires israéliennes sont en train de nourrir une contestation très très forte aux États-Unis, avec notamment une démarche d'un certain nombre de fonctionnaires du Département d'État qui expriment leur critique de la politique conduite par Joe Biden, ce qui est aux États-Unis une pratique encadrée à travers une procédure. Il y a des procédures aux États-Unis pour les fonctionnaires qui sont liés à une présidence donnée, donc qui sont de la même couleur politique en principe que leur président, et qui peuvent, par ce biais d'écrire et d'envoyer des notes critiques, c'est tout à fait admis. Alors, en France, ça s'est produit aussi, d'après ce qu'on lit dans les gazettes. Et il y a un certain nombre d'ambassadeurs qui se plaignent de l'attitude française qui nourrirait un sentiment anti-français dans les pays arabes. Mais ça n'est encadré par aucune procédure. Alors, on profite de la présence de Michel Duclos pour savoir si c'est de façon courante que des ambassadeurs d'une région comme ça peuvent se grouper et exprimer leur critique vis-à-vis de la politique du gouvernement, ou est-ce que c'est que ce que l'on nous a appris est tout à fait inédit s'agissant de la France. Après, on reviendra évidemment sur l'ampleur ou les ressorts de la critique aux États-Unis, mais qui est la même, hein, qui consiste à dire on a une politique qui est déséquilibrée, qui est défavorable aux Palestiniens et trop en défense d'Israël. Michel Duclos.
Je peux pas commenter une lettre que j'ai pas lu. Ce qu'on a dit, la lettre, c'est un peu bizarre parce que les diplomates n'écrivent pas des lettres.
Ils écrivent des télégrammes.
Ils écrivent des télégrammes. Voilà. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça, ça s'appelle des notes, mais peu importe. Donc, je peux pas commenter quelque chose que j'ai pas lu. De surcroît, c'est une fuite manipulée par un journaliste qui est connu pour son esprit malveillant et d'une fiabilité, je crois, douteuse. Ce que je peux dire à titre de témoignage personnel, c'est que quand j'étais ambassadeur, et notamment ambassadeur dans cette région, ça m'est arrivé d'écrire des télégrammes, à l'époque c'était des télégrammes, pour dire que j'étais pas d'accord. Alors en général, on le fait de façon évidemment très respectueuse, on essaie d'argumenter, et on fait des propositions. Et je comprends ce que me disent des collègues, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que un certain nombre d'ambassadeurs font dans leur métier, c'est-à-dire faire des propositions. Et il est arrivé, effectivement, que parfois je m'associe aussi à d'autres démarches collectives. Alors, dans ma génération, c'était peu fréquent, parce que, vous savez, une des caractéristiques des diplomates, c'est qu'ils sont très individualistes, c'est leur défaut. Je dois dire, en fréquentant le Quai d'Orsay moderne, que ce défaut s'estompe et que maintenant, les gens travaillent davantage en équipe, ce qui est plutôt bien. Donc si les diplomates sont capables de se mettre en commun pour faire des propositions, fût-ce des propositions critiques au gouvernement, c'est plutôt un progrès.
Alors, il y a ce qui est reproché à Joe Biden, comme d'ailleurs à Emmanuel Macron, c'est-à-dire une trop grande proximité avec Israël, qui néglige probablement le fait que le gouvernement américain continue de faire pression quand même sur Israël.
C'est ça, Michel Duclos. Là aussi, j'allais peut-être vous corriger... Jean-Marie, je comprend, surtout, c'est là, il faut bien voir, il y a toujours le risque du syndrome de Stockholm. Quand vous êtes dans un endroit, évidemment, vous êtes particulièrement sensible à ce que vous disent les gens de l'endroit où vous vous trouvez, ce qui ne veut pas dire que la politique de votre pays doive épouser nécessairement les sûr. Vues du pays où vous êtes. Hein. Il y a le gouvernement, le président de la République doivent arbitrer en fonction d'un certain nombre de paramètres, y compris des paramètres de politique intérieure. Donc, quand il s'agit d'un sujet comme celui-ci. Mais pour revenir à l'administration Biden, ce qui est quand même frappant, c'est plutôt justement le caractère très mesuré de son approche. Il soutient Israël, évidemment. Comment faire autrement dans la situation où s'est trouvé le gouvernement israélien et le peuple israélien? Mais en même temps, manifestement, ils exercent une influence modératrice très forte. Et ils prennent en compte la dimension humanitaire, j'allais dire humaine, de la question de Gaza. Et ce qu'ils leur message, me semblait-il, au gouvernement israélien, c'est bon, en fait, ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas les règles qu'on dit humanitaires. Enfin, c'est les règles humaines. Peut-être le moins de victimes civiles possible.
Ce qui apparaît aussi dans la presse, c'est que Joe Biden aurait détourné les plans israéliens de départ. Parce qu'au départ, on pensait qu'Israël frapperait le Hezbollah pour s'assurer, au fond, du front nord, avant de s'occuper du Hamas. Or, manifestement, les Américains ont mis un veto à ce genre de schéma.
Et en échange, ils ont déplacé leur flotte en Méditerranée pour avoir un effet de dissuasion vis-à-vis de l'Iran et du Hezbollah. Mais effectivement, donc, je crois que les Américains, comme c'est convenable, soutiennent Israël et ont un dialogue modérateur à l'égard du gouvernement actuel. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est le bon dosage? Évidemment, là, la critique est ouverte. Je crois que, comme tout le monde, hein, j'ai dit beaucoup de bien de l'administration Biden, comme tout le monde, elle commet des erreurs. Et je pense que Blinken, lors de son premier la première tournée, a essayé de convaincre les uns et les autres qu'une des solutions, c'était que les Gazaouis s'installent en Égypte. Et ça, évidemment, c'est totalement inacceptable pour les Égyptiens. Et donc là, il a perdu sans doute un temps précieux.
Jean-Claude Casanova. Oui,
aux États-Unis, distinguons les États-Unis et la France. Aux États-Unis, à l'intérieur du Parti démocrate, il y a une petite fronde, mais relativement faible. On ne note pas assez que le sénateur le plus à gauche des États-Unis, Sanders, soutient la politique de Biden et soutient fermement Israël. Et on verra l'ampleur de la manifestation demain à Washington, mais je ne crois pas que la politique de Biden sera modifiée par une pression de ce type. Y compris l'intervention des diplomates. D'une certaine façon, historiquement, le monde diplomatique n'a jamais été très favorable à Israël. Et pour revenir à la France, si vous voulez, il y a un vieux contentieux entre la diplomatie française et Israël qui commence en 1945 quand le Quai d'Orsay protège Husseini, qui était recherché pour les Anglais. Husseini avait été le complice d'Hitler dans la création d'une Waffen-SS musulmane, composée essentiellement de Bosniaque, et le Quai d'Orsay l'a protégé, l'a laissé aller en Égypte au nom de la politique arabe de la France, dont j'ai jamais très bien su ce qu'elle voulait dire, autre que d'être la politique qu'aiment les Arabes. Parce que c'est de la même politique arabe qui est invoquée pour empêcher en 1948 la reconnaissance d'Israël. Il a fallu que Blum intervienne très vigoureusement, si vous voulez. Le Quai d'Orsay était hostile à la reconnaissance d'Israël, comme d'ailleurs le State Department aux États-Unis. Israël existe et d'une certaine façon, les États-Unis et l'Europe, comme le montre la politique allemande, sont garants de l'existence d'Israël, ce qui implique, lorsqu'à l'intérieur du monde arabe se déchaîne une fureur anti-israélienne du type Hamas, ou une volonté de ne pas reconnaître l'existence de l'État d'Israël, comme le maintien, par exemple, des camps de réfugiés. Je dis toujours que les Allemands de Prusse orientale ont quitté la Prusse orientale. Il n'y a pas de camp de réfugiés en Allemagne pour les habitants de Königsberg, qui était la ville de Kant, et qui est devenue une ville russe. Il n'y a pas de camp de réfugiés des Allemands de Bohême, des Allemands de Danzig. Et d'une certaine façon, en maintenant les camps de réfugiés, on maintient l'idée que Israël est quelque chose d'artificiel qui ne devrait pas exister. Et je trouve que c'est, du point de vue de l'Europe et des États-Unis, du point de vue de l'Europe, c'est assez dangereux et que la France devrait être très attentive à ce point.
Est-ce que vous considérez que la politique... Parce qu'on fait maintenant la critique à Emmanuel Macron d'être peu lisible et déséquilibré. Est-ce que, à vos yeux, la politique française aujourd'hui d'Emmanuel Macron, puis on terminera là-dessus, est peu lisible et déséquilibrée, Michel Duclos ?
Non, je crois que le président de la République a un problème d'expression. Il donne effectivement l'impression d'hésiter, de zigzag, mais en même temps, ne tirons pas sur le pianiste, c'est quand même extraordinairement difficile. La question de l'équilibre, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est d'être juste, c'est de trouver la formule pertinente au bon moment. Il était légitime qu'il soutienne Israël quand il est allé sur place, il est légitime.
Oui, sur place, on oublie qu'il a vu tout le monde et qu'il a été le seul à voir tout le monde, y compris les Jordaniens.
Il est légitime aujourd'hui qu'il se préoccupe du sort des victimes civiles. Donc, on peut comprendre qu'il ait évolué. Alors, est-ce qu'il fallait prendre position pour ou contre un cessez-le-feu ? Là, on peut évidemment en discuter. Il est clair qu'il lui aussi il a commis une erreur, c'est l'affaire de la coalition anti-BDS, parce que là il a donné l'impression que il mettait le Hamas sur le même plan que Daesh. Et en plus les Israéliens n'ont pas besoin de nous pour combattre le Hamas sur le plan militaire en tous les cas. Et par ailleurs, ce qui me préoccupe un peu, c'est que c'est très franco-français. Et que quand même là, c'est le moment ou jamais de travailler avec d'autres, avec les États-Unis aussi, bien sûr, mais surtout avec les Européens et avec les puissances arabes modérées.
Oui, ça c'est vrai. C'est assez bizarre d'ailleurs pour un président qui se dit tant européen de laisser complètement de côté le.
Oui, et puis je vous dis les arabes modérées qui sont quand même la clé de l'avenir.
Bien sûr, Jean-Claude, avant de terminer.
Allez-y. On reproche toujours la dualité, mais il y a une dualité de problèmes. On reproche toujours le à la fois à Macron, mais il y a une dualité de problèmes en Israël. Il y a assurer la sécurité d'Israël et d'une certaine façon améliorer la situation du peuple palestinien. Donc, comme on veut les deux choses à la fois, on suspecte toujours l'ambiguïté, mais l'ambiguïté, elle est dans la réalité. La réalité, c'est que Israël a besoin de sécurité et qu'il faut essayer que le peuple palestinien, à Gaza ou ailleurs, ou en Cisjordanie, soit dans la meilleure situation possible.
Si j'ai un regret personnellement, ce serait de dire que pendant les 6 années précédentes, on avait quand même complètement laissé de côté ce problème.
Complètement. On considérait même que ça n'existait plus, puisque le processus dit d'Abraham, qui consistait pour un certain nombre de pays à se rapprocher d'Israël, avait fait croire que d'un commun accord, au fond, on mettait totalement entre parenthèses la question palestinienne. Avec une grande difficulté, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois, qui est la nature même du gouvernement israélien aujourd'hui, qui est quand même composé d'extrémistes notoires, et qui ne facilite certainement pas la mise sur pied d'une perspective à 2 États. Voilà pour ce tour d'horizon aujourd'hui. Merci Michel Duclos d'avoir été avec nous. Michel Duclos, conseiller spécial en géostratégie et diplomatie de l'Institut Montaigne. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.